17h sur Radio Campus Tours. Nous sommes en direct de nos beaux studios Hauts de Lyon. Et aujourd'hui, nous avons deux invités prestigieux, bien sûr, dans nos studios. Il s'agit de Laurent Bigot, directeur des études, directeur des publications et responsable des enseignements en presse écrite et multimédia à l'EPJT. Bonjour. Nous avons également à côté de vous Nicolas Souris, qui est responsable des enseignements en radio et télévision et chargé des relations entreprises. Bonjour.
Bonjour.
Et alors, comme j'ai de la chance, j'ai avec moi en studio trois formidables chroniqueurs. Bonjour Raphaël, tout d'abord.
Bonjour Mélissa, oui.
Alors Raphaël, tu es connu quand même à Radio Campus, puisque tu étais animateur de l'émission HEP, Histoire, Économie, Politique.
Oui, qui est devenue Études Express cette année.
Voilà, puisque fatalement tu as fini par devenir étudiant et plus lycéen. À côté de toi, Clara. Bonjour Clara.
Bonjour.
Alors nos auditeurs te connaissent aussi, puisque tu interviens régulièrement dans l'émission Sortez, et toi tu es en année de césure.
Exactement.
Et voilà, je pense qu'un micro peut se tourner vers notre chroniqueuse invitée, donc bonjour Juliette.
Bonjour.
Alors Juliette, toi tu as gagné le concours des c'est les jeunes reporters, pardon.
Oui, le concours de journaliste meilleur article.
Voilà, donc félicitations à toi et bienvenue sur nos ondes, puisque le cadeau c'était de participer à une émission à Radio Campus.
Merci.
Alors chers auditeurs, accrochez-vous bien. Vous avez suivi toutes ces présentations, puisque le sujet du jour, c'est le fait que l'école publique de journalisme de Tours réorganise ses diplômes et son équipe. Alors, je laisse la parole à nos chroniqueurs qui vont poser 1000 questions à nos invités.
Merci d'être venu et j'aimerais vous poser donc une question. Pourquoi faire passer d'une licence à un master, votre diplôme ?
Alors ça, c'est un processus qui a été assez long, un processus de réflexion en tout cas qui a été assez long, puisque pendant 50 ans, on a formé, comme on dit, post-bac, c'est-à-dire à la sortie du bac, on proposait un DUT, donc bac plus 2, et en 2001, on a ouvert une licence professionnelle, donc une troisième année d'apprentissage au métier du journalisme. C'est un modèle qui a très bien fonctionné pendant très longtemps, et qui depuis 7-8 ans, je dirais, commençait à donner un peu des signes de faiblesse à différents niveaux. Le premier niveau, c'est que on se rendait compte que nos étudiants étaient de plus en plus jeunes. C'est-à-dire qu'on avait un gros processus de sélection, puisqu'on avait très peu de places et énormément de candidats. On avait grosso modo entre 800 et 1000 candidats selon les années pour 25 places. Donc on avait un processus de sélection très important. Et les candidats étaient de plus en plus des bacheliers de l'année et de moins en moins des étudiants qui avaient déjà un cursus à l'université et qui venaient après se former en DUT puis en licence professionnelle. Et donc ce jeune âge, ça posait plusieurs problèmes. Le premier problème, c'était la capacité d'un jeune de 17 ans à être sûr de vouloir devenir journaliste. C'est-à-dire qu'il avait eu très peu d'occasions finalement d'éprouver son appétence pour le journalisme, puisqu'il avait fait son cursus en lycée, parfois avec un stage de découverte en troisième pour les plus chanceux, parce que c'est très compliqué d'avoir un stage dans une rédaction, je pense que vous en avez peut-être fait les frais vous-même. Donc il ne pouvait pas savoir si réellement le métier l'intéressait, donc c'était presque un métier fantasmé. Oh, ça doit être super d'être journaliste, je vais voyager, je vais faire des grands reportages, je vais être reporter de guerre et je vais présenter le journal de 20h. Donc il y avait un problème de motivation réelle, puisqu'il ne connaissait pas le métier. Ça, c'était la première chose. Deuxième chose, il y avait aussi un problème de maturité. C'est-à-dire que quand on est journaliste, on raconte le monde. C'est le monde qui nous entoure, à 500 mètres, 1 km, comme le monde qui peut être à 5000 ou 10 000 km. Et pour comprendre le monde dans ses enjeux, qui sont de plus en plus complexes, eh bien, il faut avoir une certaine maturité. Et parfois, même si ce n'est pas quelque chose de très scientifique, l'âge ne fait pas la maturité et inversement, mais parfois, on sentait nos étudiants qui avaient assez peu de connaissances finalement du monde contemporain qui les entoure. Et ça devenait problématique pour comprendre l'information avant même de voir la traiter et de l'écrire et de la diffuser. Et puis, troisième raison, toujours due à ce jeune âge, c'est que quand ils sortaient de chez nous, après 3 ans de formation pour la plupart, eh bien, ils disaient « je ne me sens pas capable de rentrer sur le marché de l'emploi aujourd'hui, j'ai 20 ans, je ne me sens pas capable de tout de suite aller travailler dans une rédaction, donc je vais poursuivre mes études ». Et ces poursuites d'études, qui étaient sûrement très intéressantes, souvent les détournaient du journalisme, puisqu'ils faisaient des études en sciences politiques, en géopolitique, en droit, en histoire, et donc qu'ils se coupaient du réseau qu'ils avaient commencé à construire pendant leurs études de journalisme. Et pour peu qu'ils ne parvenaient pas à piger, à écrire des articles pour des publications pendant leur poursuite d'études, eh bien, ils se détournaient petit à petit du journalisme. Alors, ils faisaient autre chose, qui était très bien aussi, hein. Ils trouvaient une autre voie professionnelle, mais ce n'était pas celle pour laquelle, au départ, ils avaient candidaté. Donc, tout ça a fait qu'à un moment donné, on s'est dit, est-ce qu'on travaille avec le bon public ? Et la réponse qui a été collective, hein, de la part de l'équipe pédagogique, ça a été de dire peut-être qu'on est rendu au bout d'un processus qui a été le DUT licence et qu'aujourd'hui il est peut-être plus intéressant de travailler avec des étudiants qui ont déjà un parcours universitaire tel qu'on les a connus il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Et donc le master était la réponse, et surtout c'est la réponse qui est faite, je dirais, dans la plupart des universités qui aujourd'hui proposent une formation au journalisme reconnue par la profession. Sur les 14 cursus reconnus, on est 11 à un niveau master aujourd'hui.
Et est-ce que justement ces nombres de places vides, donc vidées parce que supprimées, est-ce qu'on va les retrouver en master ?
Alors, aujourd'hui, la promotion de master, c'est 36 places. C'est-à-dire qu'on accueille plus d'étudiants en master qu'on accueillait d'étudiants en DUT. On est passé de 25 à 36 en termes de promotion. La différence, c'est que nous, on les avait pendant 2 ans plus 1 an, DUT plus licence. À partir de maintenant, on les a que sur 2 ans, master 1 et master 2. Donc ils sont plus nombreux par promotion, mais ils sont moins nombreux à l'école, puisque avec la fin du DUT, on a arrêté aussi ce qu'on appelait l'année spéciale de journalisme, qui était un processus un peu différent pour intégrer le DUT en deuxième année. Hein, qui était plutôt tourné vers la presse magazine et la presse multimédia, et je dirais que mécaniquement avec la fin du DUT, l'année spéciale a disparu parce que c'était aussi un DUT, l'année spéciale. Et puis nous, la licence de journalisme, elle était ouverte à 35 à 40 étudiants chaque année, puisqu'elle était ouverte à d'autres cursus que le nôtre.
Et en quoi cette nouvelle formation va être différente par exemple des écoles ESJ ou autres diplômes de journalisme qui commencent à partir du bac plus 3?
Alors elle est à la fois semblable et différente. Semblable parce qu'on a un référentiel pédagogique qui est commun aux 14 cursus reconnus. Hein, c'est un travail qu'on a fait il y a quelques années au sein de la Commission nationale des métiers du journalisme, la CNMJ, où on s'est dit on est à des niveaux de diplômes différents, mais on a les mêmes ambitions pédagogiques, tous les cursus qui sont reconnus par la profession. Et donc, puisqu'on a les mêmes ambitions pédagogiques, essayons d'écrire ensemble un référentiel. Qu'est-ce qu'il faut absolument mettre en place dans un cursus d'apprentissage au journalisme ? Grosso modo, si on veut schématiser, il y a 4 gros blocs. Il y a la connaissance du monde contemporain, la connaissance du monde des médias, les fondamentaux du journalisme, et puis tout ce qui est production éditoriale. Hein. Et donc, on a validé ce référentiel commun il y a quelques années. Et donc, Lille, Strasbourg, les écoles parisiennes, Marseille, Grenoble, Bordeaux, Tours, Lannion et Cannes, qui sont en IUT, on a tous le même référentiel pédagogique. Après, on le construit un peu comme on veut. Mais il y a des passages obligés d'un point de vue pédagogique, donc on se ressemble en ce sens-là, et puis on a des différences, évidemment. La première différence avec Lille, par exemple, c'est que nous, on est une école publique. Lille est une école privée, donc ce ne sont pas les mêmes coûts de formation pour les étudiants, et ça, c'est quand même important. Hein, nous, ce sont des inscriptions universitaires, c'est-à-dire que le master, ça coûte 234 € par an. Je vous invite à vous renseigner sur le coût des études dans les écoles privées de journalisme. Je vais pas le faire ici. Ça, c'est la première différence. La deuxième différence, c'est peut-être l'approche que l'on a dans l'équilibre à avoir entre les parcours académiques et les parcours professionnalisants au sein des écoles, au sein des cursus. Quelle part on laisse à l'académique? Quelle place on donne aux professionnels? Comment on équilibre ou pas les deux? Hein, on a des approches un peu différentes. On a aussi à Tours une immense chance, c'est d'accueillir chaque année les assises internationales du journalisme. Lille ne les accueille pas. Elle les a accueillies il y a 12 ans, mais elle ne les accueille plus. Donc ça, c'est pour nos étudiants, pour nos intervenants et puis pour nos écoles, c'est évidemment quelque chose de fondamental. D'ailleurs, Radio Campus s'associe aussi chaque année à ces assises. On a des intervenants qui sont différents, on a des sensibilités qui sont différentes, on a aussi des étudiants qui sont différents. Il y a des étudiants qui sont davantage intéressés par les écoles comme le CFJ et l'ESJ, qui sont les deux grosses écoles privées en France. D'autres qui sont davantage intéressés par des parcours publics. On a un socle commun, je dirais, mais après on a des différences liées à notre histoire, liées à nos ambitions pédagogiques, liées aux partenariats aussi qu'on peut avoir avec des médias, qu'ils soient locaux, nationaux ou internationaux, et puis liées aux projets éditoriaux qu'on peut développer tout au long de l'année.
Par exemple, vous dispensez quelle matière pendant ces 2 ans ?
Ah, il Il y a vraiment tout type de matières. Alors dans les matières académiques, on va retrouver par exemple de la géopolitique, du droit, de l'économie, de l'histoire, de la sociologie et des sciences de l'infocom également. Donc on a un panel de cours académiques qui est assez varié à l'EPJT. C'est un choix, là comme le disait Nicolas, toutes les écoles ne font pas le choix d'un parcours académique qui reste aussi dense dans les deux années de master et en particulier pour nous dans la première année du master. En fait, on a fait le choix d'une progression sur les deux années et donc les quatre semestres que l'étudiant passe à l'école. On démarre avec beaucoup de cours académiques au cours du premier semestre et de la première moitié du premier semestre et puis progressivement l'étudiant va pouvoir passer à des productions éditoriales, à des sessions professionnelles qui sont de plus en plus nombreuses et au final ne faire plus que ça sur la fin quand il choisit sa spécialité, presse écrite, radio ou télé, en fin de parcours à l'EPJT.
Et est-ce que d'ailleurs ces deux ans sont pénalisants ou bénéfiques parce que le DUT ça se faisait en deux ans plus l'année professionnalisante, mais maintenant vous passez à deux ans, est-ce qu'il y a une perte d'enseignement pour ces futurs élèves?
Ah ben, on n'espère pas qu'il y ait une perte. Non, c'est-à-dire qu'en fait, on fonctionne ainsi en se disant que les étudiants que l'on recrute, ils ont déjà trois années d'enseignement, suivi trois années d'enseignement à l'université, hein, donc déjà un bagage universitaire avant d'arriver chez nous. On constate après cette première année de Master 1, puisque on en est là aujourd'hui, on est en train de terminer la première année de formation de la première promotion de Master. On constate qu'ils ont tendance à apprendre plus vite, ils ont acquis des réflexes d'apprentissage à l'université et donc de ce fait et de par leur expérience ou leurs expériences précédentes, ils sont en mesure de mieux intégrer finalement les notions et les parcours professionnels qu'on leur propose et plus rapidement en tout cas. Donc je dirais qu'il n'y a pas vraiment de perte en ce sens-là. Ils peuvent de la même manière suivre aussi, par rapport à ce qu'on faisait sur les trois années, le cursus uniquement en formation initiale chez nous, mais également par apprentissage au cours de la deuxième année. Et potentiellement plus tard, peut-être les deux années en apprentissage et peut-être aussi des cursus possibles pour une partie, en tout cas à l'étranger.
Selon vous, quelle est la meilleure licence, le meilleur parcours à faire avant de venir dans votre master ?
Alors, il n'y a pas de bonne réponse à cette question-là. Si jamais des futurs étudiants de l'EPJT nous écoutent, ou en tout cas de futurs candidats pour entrer à l'EPJT nous écoutent et se posent cette question, et ils se la posent sûrement et ça peut se comprendre. En réalité, il n'y a pas vraiment de bon parcours. Nous ne privilégions pas du tout. En termes de concours d'entrée pour intégrer l'école, un parcours plutôt qu'un autre. Il se trouve que les étudiants qui ont fait des cursus en sciences humaines sont souvent les plus nombreux dans la promotion à la fin. Ceci étant, ce n'est pas un choix de notre part, c'est simplement parce qu'ils sont les plus nombreux à candidater également. Hein. Donc ça reflète assez bien ce critère-là. Par contre, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de diversifier le profil des étudiants que nous accueillons, en tout cas de nous montrer le plus ouvert possible aux différents parcours des étudiants qui viennent passer les épreuves chez nous. Et en fait, l'idée, c'est de se dire que, par exemple, un étudiant qui aurait fait un cursus en sciences dures, dans tout type vraiment de cursus, il pourrait avoir une plus-value intéressante une fois qu'il sera formé au journalisme pour une rédaction qui va rechercher un profil scientifique, par exemple. Toutes les rédactions ne recherchent pas le même type de candidats et de plus en plus de rédactions nous font part de leur intérêt pour de la diversité au moment du recrutement pour la vie professionnelle, pour intégrer les rédactions. Donc en fait, on essaye, nous, à notre niveau, de participer à ça et de pouvoir derrière proposer aux rédactions peut-être des journalistes qui ont des profils différents. Donc on y travaille, ce qui veut dire que du coup il n'y a pas de cursus privilégié, même si en général les épreuves des concours d'écoles de journalisme conviennent mieux, c'est vrai, à des gens qui ont fait des parcours en sciences humaines. Ouais.
Y a-t-il des stages au cours de ce master ?
Alors oui, il y a des stages au cours de ce master. C'est d'ailleurs même une obligation pour les masters et les autres cursus reconnus par la Commission paritaire nationale pour l'emploi des journalistes, la CPNJ, qui donc donne une reconnaissance professionnelle à 14 écoles en France, dont le PJT. Et alors ces périodes de stage, elles se déroulent de la manière suivante, c'est-à-dire c'est deux mois et demi de stage à la fin de la première année, entre les deux années du cursus de master, et puis un stage final ensuite, pour un total de 16 à 22 semaines maximum, voilà, mais de 16 semaines minimum, tout au long des deux années.
D'accord.
J'aimerais juste revenir sur le concours. Comment s'effectue la sélection à l'entrée ? C'est juste un concours ? Vous regardez le profil des candidats aussi avant ?
Il y a plusieurs étapes, effectivement. D'abord, je le dis parce que c'est important, c'est un concours payant, qui est peu cher, mais c'est un concours payant. Et c'est un concours que tout le monde peut passer. C'est-à-dire qu'on aurait pu choisir de faire une présélection sur dossier et puis d'organiser après un processus de concours écrit puis d'entretien avant de faire une liste finale. Nous, on a décidé que tout le monde avait le droit à la chance de passer les écrits. Donc le premier critère finalement qui va commencer à composer la liste finale des candidats admis, ça va être des épreuves écrites. Sur ces épreuves écrites, elles sont au nombre de trois aujourd'hui. Il y en a une première qui est ce qu'on appelle une épreuve de vulgarisation scientifique. C'est-à-dire qu'à partir de documents sur un sujet scientifique, alors scientifique au sens très large, là on peut parler de sciences physiques, de sciences médicales, de biologie, mais aussi de sciences humaines, de sociologie, d'économie, de sciences politiques, peu importe, de sciences de l'information et de la communication, à partir donc de documents très spécialisés, en faire un article pour un public le plus large possible. Là on va aller chercher à comprendre un peu comment est-ce qu'un étudiant parvient à comprendre l'information dans un document, à l'extraire, à l'exploiter, à la hiérarchiser et à l'écrire, donc à la vulgariser pour le plus grand nombre. Ça, c'est ce qu'on veut voir. Puis on va voir aussi surtout la qualité de la langue française derrière, puisque c'est un métier où il faut quand même savoir bien maîtriser la langue française, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Deuxième type d'épreuve écrite, c'est toujours ce qui fait peur d'ailleurs dans les écoles de journalisme, certaines ont abandonné d'ailleurs à faire ça, c'est un QCM de culture générale et de connaissance de l'actualité qui porte sur tous les domaines, les arts, la politique, les affaires internationales, le sport, la culture, l'économie, enfin tout ce qui nous entoure, hein, tout simplement, à la fois dans une temporalité assez immédiate, puis dans une temporalité un peu plus lointaine. Et puis troisième épreuve, une épreuve écrite d'anglais. Parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué de travailler dans le journalisme sans maîtriser la langue anglaise, parce qu'il y a de plus en plus d'interviews à faire avec des personnes qui ne maîtrisent pas la langue française, qui ne sont pas forcément anglophones, mais qui ne maîtrisent pas la langue française. Donc il faut trouver une langue commune, en quelque sorte, et l'anglais, aujourd'hui, est la langue commune, qu'on regrette ou pas. Donc voilà ce qu'on va juger dans un premier temps. Capacité à comprendre l'information, à maîtriser la langue française, à maîtriser la langue anglaise et à s'intéresser à ce qui nous entoure. À partir de là, donc, on a des notes. On fait une première liste d'admissibles, hein, auxquelles on va ajouter une étude des dossiers pour construire une deuxième note qui va comporter en plus un entretien devant jury. Donc, par exemple, cette année, on a eu 585 candidats. Sur les 585 candidats, on en a retenu 162 pour passer des entretiens devant jury. Et donc, il y a une note de dossier qui vient s'ajouter, une note d'entretien. Et donc, ça fait une note finale. Et au final, sur les 162, entre ceux qui ne sont pas venus et ceux qui ont été éliminés après entretien, on a eu 114 candidats qui ont été notés jusqu'au bout. Et sur ces 114 candidats, on en a classé 36, les 36 premiers en liste principale. On en a classé 40 en liste complémentaire, parce qu'on sait très bien que les candidats qui veulent venir à Tours, ils veulent aussi aller à Paris, ils veulent aussi aller à Lille, ils veulent aussi aller à Strasbourg, à Bordeaux, donc ils candidatent dans plusieurs masters. S'ils ont la chance d'être reçus dans plusieurs masters, bah peut-être qu'ils viendront chez nous, peut-être qu'ils iront ailleurs. Donc il y a des désistements, forcément, hein, qui s'organisent dans toutes les listes principales des masters. Et globalement, on a à peu près la moitié qui viennent de liste principale et la moitié de liste complémentaire. Donc c'est pour ça qu'on fait une liste complémentaire à peu près équivalente à la liste principale.
Quels sont vos conseils pour les étudiants qui aimeraient passer justement ce concours ?
Alors, Laurent, je t'en prie. Je vais tenter de répondre à cette question. Nos conseils, de bien travailler à l'école, peut-être d'abord, de commencer à se renseigner sur le journalisme assez tôt. Voilà, parce que il y a forcément un moment donné dans les épreuves que vient de décrire Nicolas et en particulier dans l'entretien au moment où on est face aux enseignants de l'école, où on va essayer de comprendre leur vraie motivation pour ce métier, et on conçoit assez mal finalement que quelqu'un qui prétend vouloir faire ce métier ne soit pas intéressé d'assez près à ce métier, n'ait pas cherché à le découvrir par exemple, à l'occasion peut-être d'un stage d'observation, peut-être d'intervention bénévole par exemple à Radio Campus ou ailleurs. Ou d'autres stages d'observation par exemple. Donc en fait je dirais qu'il faut être capable d'avoir des choses à raconter sur soi et sur son intérêt pour le journalisme, d'être capable de le démontrer. Parce que vous comprenez bien que quand 600 personnes veulent intégrer une formation qui va en prendre 36 à la fin, on va forcément plus facilement se tourner vers ceux qui ont tout fait ou qui semblent avoir tout fait pour que ça se passe bien et démontrer leur intérêt pour la profession. Ensuite, je dirais que c'est l'intérêt aussi pour l'actualité, puisque ça fait partie la culture générale et l'actualité, des choses qu'on va essayer de tester. Et ça, c'est, je dirais que c'est un travail de long cours. On va pas combler ces lacunes très facilement dans les trois jours qui précèdent le concours. Donc ça, c'est un travail de longue haleine qu'il faut préparer, commencer à s'intéresser aux médias, lire, consommer des médias, lire des journaux, lire des magazines, consulter des sites web d'information, la télé et la radio. Voilà, je dirais que ça, ce sont des réflexes à acquérir assez tôt. Et c'est vrai que souvent, c'est vrai que les personnes qui s'intéressent au journalisme, c'est pas une découverte du dernier moment, c'est souvent un projet mûri de longue date. Et du coup, on estime qu'elles peuvent avoir eu des opportunités pour se préparer au mieux dans ce laps de temps. Donc si elles ne le font pas, c'est qu'a priori, il y a un problème quelque part dans le projet. Donc c'est le conseil principal qu'on pourrait donner. Après, on tient à la disposition des gens qui s'intéressent à l'école, les annales du concours, des épreuves des années précédentes, pour pouvoir voir un petit peu à quoi on doit s'attendre. Il y a également des portes ouvertes, qui sont les portes ouvertes de l'Université de Tours, puisque on ne l'a peut-être pas assez incité là-dessus, mais le PJT, c'est une formation de l'Université de Tours, rattachée à l'UFR de Lettres et Langues de l'Université de Tours, et qui est opérée à l'IUT de Tours, à Tours Nord, mais qui fait partie intégrante de l'Université de Tours. Et donc c'est vrai que ces portes ouvertes, elles existent chaque année. Entre février et mars, plutôt en février d'ailleurs, je crois que c'est le 8, je crois, l'année prochaine, oui. Le 8 février 2020. Et donc, c'est intéressant aussi de venir se renseigner, rencontrer les différents enseignants, visiter les locaux, etc. C'est aussi ça, une preuve de l'intérêt qu'on peut porter à une formation et à un cursus.
À quelle période se déroule ce concours ?
Alors, cette année, les épreuves écrites ont eu lieu fin avril. Et les entretiens ont eu lieu la première quinzaine de juin.
J'aimerais bien juste revenir sur les formations que vous disposez, vous donnez à le PJT. Donc on connaît le journalisme d'investigation ou encore d'autres, le journalisme politique aussi, qui sont les plus connus, mais je suppose que vous formez aussi à d'autres sortes de journalistes, comme le journalisme musical ou moins connu, peut-être... Le journalisme web aussi.
Alors, il y a plusieurs choses à dire. D'abord, on forme au journalisme tout court.
Oui.
C'est-à-dire qu'on a une formation généraliste.
C'est déjà beaucoup.
Ce qui est déjà énorme. On forme à comprendre l'information, à aller chercher l'information, à vérifier l'information et à écrire l'information, quel que soit le support. Quand on dit écrire l'information, on écrit en radio, on écrit en télé, on écrit en presse écrite, on écrit en multimédia. L'écriture au sens, dans ce sens-là. Après, il y a des candidats qui arrivent à l'école avec déjà un projet très précis. Je veux devenir, par exemple, journaliste. Je veux faire du journalisme de sport. Alors, ils disent souvent journalisme sportif. Moi, j'aime pas trop. Je préfère dire journalisme de sport que journalisme sportif. Parce qu'une pratique importante du sport avant de rentrer à l'école, parce qu'une vraie connaissance du monde du sport, parce qu'un intérêt, évidemment, pour cette thématique-là. Hein. Mais nous, on leur dit, on va pas vous former au journalisme de sport. On va vous former au journalisme. Et peut-être que dans votre carrière, vous allez très rapidement ou moins rapidement à intégrer une rédaction spécialisée en sport, par exemple. Il y en a qui disent, moi, le journalisme politique m'intéresse. Mais pour être un bon journaliste politique, il faut d'abord être un bon journaliste tout court. Donc nous, notre formation, elle permet à des jeunes de comprendre les ressorts de l'information et de pouvoir dire l'information sur tous les supports. C'est-à-dire qu'un jeune qui sort de chez nous, c'est vrai aussi dans les autres masters reconnus, hein, c'est pas propre à Tours. Un jeune qui sort de chez nous, par exemple, et puis qui, pour une raison ou pour une autre, part dans un pays à l'étranger, il faut qu'il soit capable de faire un papier pour une radio, il faut qu'il soit capable de faire un sujet pour une télé, il faut qu'il soit capable de faire un sujet pour un site d'information en ligne ou une publication de presse écrite, qu'elle soit quotidienne, qu'elle soit hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, peu importe. Hein. Donc il faut qu'il maîtrise l'ensemble des écritures sur un spectre le plus large possible d'un point de vue thématique. Après, chaque étudiant a un projet professionnel qui parfois est déjà construit avant d'entrer à l'école et qui parfois se construit au fur et à mesure de ses apprentissages. On a des étudiants, par exemple, qui, quand ils rentrent chez nous, se disent « moi, la télé, ça m'intéresse pas ». Et puis, finalement, ils vont découvrir ce qu'est la télé et au final, ils vont peut-être devenir de très bons journalistes télé. Inversement, pour la radio, pour la presse écrite, pour le web, peu importe. Mais même s'il va vers une formation de spécialisation télé, il saura faire de la radio, il saura faire de la presse écrite, il saura faire de l'écriture multimédia. Et ça, c'est vrai pour les trois supports traditionnels que sont la presse écrite, la radio et la télé, puisque nous, le multimédia, c'est une approche très transversale aux supports traditionnels, c'est-à-dire que c'est pas une spécialité, le multimédia, c'est en plus des spécialités classiques que sont la radio, la télé et la presse écrite.
Et donc en fait, c'est cette espèce de... Enfin, du coup, vous aimez pas qu'on dise spécialisation, mais forme de journalisme, on va dire, ça va s'apprendre sur le tas, dans les rédactions.
Ça va se construire dans le parcours professionnel. C'est-à-dire que quand on débute dans ce métier, parfois on travaille dans des rédactions, on va nous demander de faire plein de choses différentes. Si par exemple vous commencez votre carrière dans la presse dite locale, bah peut-être qu'un jour vous allez couvrir un conseil municipal, le lendemain vous allez faire du fait divers ou de la justice, le surlendemain vous allez faire une manifestation pour des raisons sociales par exemple, et puis après vous allez vous intéresser à un métier qui disparaît, et puis après vous allez travailler sur un sujet plus économique économique et social, puis vous allez revenir après sur du fait divers. Donc généralement les débuts de carrière sont souvent des journalistes touche à tout qu'on va rechercher. Et puis petit à petit, au fur et à mesure, on va davantage s'intéresser à une thématique. On va nous-mêmes, en tant que journalistes, se former autour de cette thématique-là. C'est compliqué aujourd'hui de faire un papier intéressant sur les questions environnementales si on n'y connaît rien. Et donc, il y a à la fois une sorte de formation continue du journaliste sur des thématiques et puis une spécialisation support qui va se dessiner, même si on sait très bien, moi, à mon époque, quand je suis sorti de l'école de journalisme de Tours, c'était il y a très longtemps, vous n'étiez pas né, on pouvait se dire, je vais faire carrière en presse écrite et puis je ferai que de la presse écrite. Aujourd'hui, c'est compliqué d'imaginer des parcours linéaires dans le journalisme. C'est-à-dire qu'on sait très bien que les journalistes, aujourd'hui et demain, ils feront à un moment donné de la presse écrite, à un moment donné de l'information en ligne, à un moment donné peut-être du travail plus sur l'écriture sonore, d'autres plus sur l'écriture visuelle, mais que ça va être une carrière riche parce que sinueuse.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est la validation des acquis par l'expérience ?
Oui. C'est un processus qu'a mis en place le législateur, donc c'est dans la loi, hein, qui permet à quelqu'un qui a pratiqué, qui a eu une pratique professionnelle dans quelques branches d'activité que ce soit, de se présenter devant un jury et de dire toute l'expérience que j'ai acquise dans mon métier ou dans les métiers que j'ai eu à exercer me permettent de démontrer que je suis arrivé à un niveau de savoir-faire et de savoir-être équivalent au niveau que vous demandez à vos étudiants qui valident de façon, en termes de formation initiale le diplôme. C'est-à-dire qu'on reconnaît finalement l'apprentissage par les pairs et non pas l'apprentissage par les centres de formation. Et ça, c'est très important. C'est important pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est reconnaître, je dirais, une capacité à apprendre. On n'apprend pas qu'à l'université, on n'apprend pas que dans les écoles, on apprend aussi le métier sur le tas, comme on dit, hein, sur le terrain. C'est aussi une capacité pour l'université de dire que le monde de l'entreprise peut être un monde de formation, hein, et ça a été pendant très longtemps deux mondes qui se sont ignorés, hein, le monde de l'université et le monde de l'entreprise. Aujourd'hui, finalement, l'université reconnaît à l'entreprise ou aux entreprises la capacité à faire évoluer professionnellement quelqu'un. Et ça, c'est très important parce que ça crée des liens aussi entre nous, centre de formation initiale, et les entreprises avec lesquelles nos étudiants travaillent. Donc ça, c'est très important. Et puis, je dirais que c'est à la fois une reconnaissance personnelle pour la personne qui met en place ce projet de validation des acquis de l'expérience. Et c'est aussi un moyen parfois de rebondir pour la personne qui va avoir le diplôme en VAE, de rebondir dans son parcours professionnel. Donc, nous, chaque année, à l'EPJT, on fait des jurys de validation des acquis de l'expérience.
Alors après, il faut juste pour compléter, cette validation des acquis de l'expérience, elle peut être totale pour obtenir la totalité du diplôme, en fait, à travers ce cursus, ou elle peut être partielle, si jamais l'expérience qu'on a eue ne nous permet pas de montrer qu'on a le niveau équivalent complet par rapport à quelqu'un qui aurait suivi la formation initiale. Voilà. Que tout est possible entre les deux, différents niveaux de validation partielle jusqu'à la validation totale des acquis de l'expérience.
Alors j'ai une question, bon, ça aborde sur le journalisme plus largement et pas sur votre école, mais je pense qu'elle est intéressante d'être posée. Tout à l'heure vous parliez de la polyvalence finalement d'un journaliste, mais alors je ne sais plus qui c'est qui avait fait cette critique là, je crois que c'était Élise Lucet qui avait dit justement dans notre monde du journalisme, enfin plutôt plateau, télé, radio pour les grands noms du journalisme, que c'était un petit peu un milieu fermé. C'était pas assez tournant sur les postes, c'est ce qu'elle disait, et prône d'ailleurs plutôt un système comme anglo-saxon où finalement les journalistes politiques restent quelques années et après ils changent. Et elle prône ce système finalement. Et donc c'est pas un peu contradictoire à dire finalement on va toucher à tout, mais on va voir déjà que c'est un monde qui est difficile pour entrer dedans, et c'est dur aussi de se déplacer dans ce monde.
Oui, je pense qu'elle a raison. Un bon journaliste doit savoir à peu près tout faire. Après, il y a aussi la crédibilité du journaliste. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on va dans des formes d'enquête très spécifiques, il faut pouvoir comprendre le milieu dans lequel on enquête, pour enquêter, et deux, pour travailler l'information autour de l'enquête que l'on mène. Donc, mais vous avez raison sur plusieurs points. Hein, le premier point, c'est que c'est vrai que c'est un milieu assez fermé. Hein, c'est un peu un entre-soi quand même, hein, le monde du journalisme. Alors on l'a expliqué tout à l'heure, on cherche justement à travailler sur la diversité des profils pour que ce ne soit plus un monde fermé. Alors nous, à notre petite échelle, hein, on est juste une formation, c'est-à-dire qu'il y a 36 personnes qui sortent chaque année de notre école. Il faut savoir que chaque année, la commission de la carte professionnelle de l'identité des journalistes valide, je crois, 1700 à peu près, hein, 1700 nouvelles cartes oui, chaque année. C'est-à-dire que nous, nos 36 étudiants dans ces 1700, je veux dire, c'est pas une goutte d'eau dans l'océan, mais enfin c'est pas, voilà, nous on travaille à notre petite échelle sur la diversité, mais il faut cette diversité justement à la fois thématique et à la fois de support, hein. Moi je dis souvent aux étudiants qu'ils ont la chance aujourd'hui d'être dans une période où il y a énormément de mutations dans le journalisme. Pourquoi ils ont la chance? C'est parce qu'on est dans une période où il faut inventer. Nous on a connu un journalisme qui était assez finalement assez facilement compréhensible et construit, c'est-à-dire que on faisait de la radio la radio c'était beaucoup de hard news, c'est-à-dire de l'actualité, c'était le média de l'instant, et puis il y avait un peu de travail d'enquête évidemment et de magazine, mais globalement c'était beaucoup de hard news. Ou alors on faisait de la presse écrite. Si on faisait de la presse écrite quotidienne, qu'elle soit nationale ou régionale, ben on racontait ce qui s'était passé la veille ou l'avant-veille. Si on faisait de la presse magazine, on travaillait plus sur de l'enquête, sur du long terme. Ou alors on faisait de la télévision, après avec cette distinction aussi hard news et puis travail plus magazine. Demain, les journalistes, c'est pas ça qu'ils feront. C'est, ils vont travailler pour des boîtes de journalisme qui seront déjà multi-supports. Un exemple tout simple, si vous prenez le groupe qui comprend RMC, BFM TV, La Tribune, par exemple, hein, eh bien, un journaliste qui aujourd'hui s'engage à RMC doit aussi être capable de travailler pour BFM TV. C'est le même groupe, ce ne sont pas les mêmes rédactions, mais c'est le même groupe. Donc il doit savoir faire un plateau pour la télé, comme il doit savoir faire un enrobé de 1 minute 20, pour, enfin 1 minute 20 ça n'existe pas à RMC, 50 secondes d'enrobé pour la radio RMC. Et puis peut-être qu'il fera aussi, il travaillera pour la version numérique de la Tribune, hein, sur un papier d'éclairage par exemple. Donc moi je pense que cette diversité des thématiques et des supports, il faut qu'elle soit acquise pour les journalistes de demain. Rien n'empêche, à côté de cette diversité, de se spécialiser dans un domaine, hein. Mais je pense que les deux ne sont pas incompatibles.
Alors oui, parce que j'ai entendu donc parler d'Élise Lucet et de savoir-être, donc je voudrais savoir, au-delà des compétences en termes de curiosité, peut-être de savoir-faire bénévole dans une association comme Radio Campus, qu'est-ce que vous allez chercher, écouter, regarder dans un entretien? Quelle qualité humaine vous semble indispensable et fort utile justement pour faire un travail qui s'approche de celui d'Élise Lucet?
On ne se donne pas forcément pour objectif d'emblée de recruter de futures Élise Lucet, même si Ça peut être un objectif en soi, bien sûr. Mais disons que les qualités globalement qu'on va chercher à identifier, ça va être la curiosité, bien sûr. Hein, la curiosité qui est celle que le journaliste doit toujours avoir avec lui au moment de traiter n'importe quel sujet. Et donc être en mesure de se poser toujours tout un tas de questions sur un même sujet, même quand on pense le maîtriser. Surtout d'ailleurs quand on pense le maîtriser. Donc cette curiosité, on va chercher à la détecter chez le candidat, et ça se fait à travers les médias qu'il nous dit consulter, les sujets auxquels il dit s'intéresser. On va essayer de voir jusqu'à quel point il s'y intéresse, et donc essayer de creuser quand il nous dit avoir un intérêt pour telle ou telle thématique. Après, bien sûr, ça va aussi être les qualités dont parlait Nicolas de savoir-être, dont il aura peut-être pu faire la preuve à travers des expériences passées. Et puis, je ne sais pas après ce qu'on pourrait donner comme autre qualité, mais ça va aller peut-être jusqu'à sa capacité à décrire son projet, à construire une argumentation efficace et réfléchie sur ses motivations.
Voilà. Alors je précise peut-être, c'est quoi savoir-être? Quoi, le savoir-être?
Savoir-être, moi je dirais d'abord, pour être journaliste, il faut aimer les autres, il faut aimer les gens, il faut aimer aller les rencontrer, il faut aimer discuter, il faut aimer perdre du temps, il faut aimer s'interroger sur soi-même, sur la perception qu'on a du monde, sur les stéréotypes peut-être qu'on a parfois, sur ce que notre culture a fait, qu'on a construit en termes d'image, et donc savoir remettre ça en question. Faut savoir aussi, je pense, écouter. On est un métier où on prend la parole, qu'elle soit à travers le stylo, à travers le micro, à travers la caméra, mais il faut d'abord savoir écouter les autres, hein, tout ce qu'on pourrait qualifier d'empathie en quelque sorte. Ça c'est une qualité à mon avis primordiale. Faut aussi aimer apprendre. C'est-à-dire, c'est pas un métier où on sait, c'est un métier où on va chercher à savoir à peu près, puis de façon plus précise après vérification, après recoupement des sources, pour ensuite le faire savoir aux autres. Donc si on est dans l'idée, ce que disait Laurent, si on pense savoir déjà, faut faire autre chose que le métier de journaliste. Faut aimer apprendre, et puis après c'est facile à dire au micro, c'est plus compliqué à mettre en place. Faut aussi savoir se tromper. Avant publication, évidemment, aller sur des fausses pistes, commencer une enquête et se dire non, finalement ça n'aboutit pas, je me suis trompé, je pensais que j'allais pouvoir démontrer ça ou ça, et finalement mes recherches ne parviennent pas à démontrer que j'avais raison au départ. Donc savoir se remettre soi-même en doute, comme on peut remettre en doute systématiquement les informations qui arrivent vers nous. Quelqu'un qui nous dit quelque chose, il a un intérêt à nous le dire. Donc c'est pas parce qu'il nous le dit que c'est vrai. Toujours remettre en doute ce que l'on trouve, ce que l'on nous dit, quel que soit l'interlocuteur, quelle que soit la source qui nous le dit. Mais aussi savoir remettre en doute sa propre expérience et ses propres connaissances. Ça, c'est important.
Donc là, c'est intéressant, on a parlé des qualités d'être un journaliste. Mais je pense que ça vous a pas échappé. En ce moment, les journalistes sont plutôt critiqués par rapport à leurs qualités. Et d'ailleurs, là, on a tous bon ton de taper un petit peu sur BFM. Et d'ailleurs, j'ai un petit peu regardé vite fait sur le sujet. Et en regardant le profil de, on voit, c'était Routel Krief par exemple. Le problème, c'est qu'elle, elle est pas, enfin, peut-être qu'elle a un diplôme de journaliste, je peux regarder son parcours, mais elle est plutôt éditorialiste. Et est-ce que, dans votre cursus, on fait la distinction entre les deux ou, et d'ailleurs, est-ce que vous pensez que cette distinction, elle n'est pas suffisamment présente dans la société, ce qui entraîne des confusions, dire, ben, là, on a un journaliste qui prend position sur tel sujet, alors qu'en fait, il est éditorialiste.
Alors, on ne forme pas d'éditorialiste à l'EPJT, enfin, bon, alors peut-être qu'on en forme en devenir, mais on n'en forme pas a priori, en tout cas, c'est oui, pas l'objet de la formation.
La limite est assez floue, en fait.
Ben, pas vraiment, c'est-à-dire qu'elle est, une sorte de flou est entretenu dans les médias, et notamment, vous faites allusion à BFM Télé, donc effectivement, il est assez difficile de comprendre qui est éditorialiste, qui est journaliste, et quelle distinction le public doit faire face à ces deux types de profils. Alors, nous, on forme d'abord des journalistes qui peut-être deviendront un jour éditorialistes, je n'en sais rien. Mais l'idée, en tout cas, c'est de se dire que le journaliste fait un travail donc à la fois de recherche et de traitement de l'information. L'éditorialiste, lui, va plutôt être dans l'émission d'un avis. En fait, hein, le fait de venir donner son avis à l'antenne ou dans les colonnes d'une publication, ou en radio, en télé, etc. Et c'est une différence fondamentale, c'est-à-dire que nous, les étudiants que l'on forme et les futurs professionnels que l'on forme, on veut d'abord qu'ils soient en mesure de traiter l'information, d'aller chercher l'information, d'enquêter, de vérifier l'information. On accorde une très grande place à l'EPJT sur ces questions de vérification de l'information et de fact-checking. C'est une des spécialités très mises en avant, on va dire, dans nos cursus. Ce que fait un éditorialiste qui a peut-être été dans une vie antérieure journaliste de terrain, ça n'a plus rien à voir au moment où il est éditorialiste. C'est-à-dire qu'il est là pour livrer finalement des éléments de réflexion qui sont les siens ou qui sont ceux qu'il a pu construire à travers des rendez-vous privilégiés avec telle ou telle personnalité. Donc on a vraiment affaire à un type. C'est bien sûr qu'on reste dans l'univers journalistique, mais on a affaire à un type de prestation tel qu'on le voit par exemple sur BFM TV qui n'a rien à voir avec le travail de terrain et le travail fondamental du journaliste.
Et puis juste pour rajouter, ça va être un peu méchant ce que je vais dire, mais c'est beaucoup moins compliqué d'organiser un plateau sur une chaîne de télévision avec 4 éditorialistes plutôt que de dire à un journaliste, bah, t'as 3 semaines, t'as 1 mois, t'as 2 mois pour faire une enquête, et tant mieux s'il y a un résultat, tant pis s'il n'y a pas de résultat.
Est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire à un étudiant, à un jeune, de passer par une école de journalisme pour devenir journaliste et pour acquérir justement toutes ces notions?
On va pas se tirer une balle dans le pied.
Non, alors moi c'est ce que je dis souvent, parce que c'est vrai que quand des jeunes viennent se renseigner sur l'école par exemple aux portes ouvertes et qu'on leur annonce un petit peu les conditions dans lesquelles on accède à ce cursus qui sont, c'est vrai, particulièrement compliquées, hein, il faut l'admettre. C'est vrai que bon, 600 candidats, 36 étudiants, bon, c'est forcément, il y a forcément une sélection qui peut sembler parfois insurmontable quand on regarde ça du dehors. Mais ce que je leur dis souvent, c'est qu'en fait, d'abord, ils doivent essayer d'intégrer un cursus, et qu'intégrer un cursus va leur donner des facilités, à la fois en termes de rapidité d'apprentissage des méthodes, et puis à la fois en termes de réseau professionnel. au moment d'intégrer la vie, leur vie professionnelle d'après. C'est-à-dire qu'ils ont des contacts dans des rédactions, ils ont fait un certain nombre de stages, je vous l'ai dit, de 16 à 22 semaines sur l'ensemble du master. Ils ont beaucoup de cartes en main, ils ont même un réseau très, très proche d'eux, qui sont leurs camarades de promotion, qui, donc, voilà, on a 35 camarades de promotion qui vont être dans autant de journaux et très vite mener une carrière et donc constituer des contacts qu'on peut activer par la suite. Et c'est comme ça qu'on se fait sa place dans ce métier, en grande partie, il faut le dire. Donc voilà, pour tout ça, intégrer une école de journalisme, bien sûr que c'est important. Après, comme l'a rappelé Nicolas tout à l'heure très justement, c'est vrai que la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels, elle distribue effectivement à peu près 1500 à 1700 nouvelles cartes de presse chaque année, et il n'y en a qu'une petite partie, en tout cas une minorité qui est donnée à des écoles, à des cursus d'écoles de journalisme reconnues. Et donc il y a d'autres parcours possibles et on peut construire son parcours en dehors d'une école de journalisme. Il faut quand même le reconnaître, il y a un certain nombre de médias qui donnent leur chance à des étudiants qui auraient fait n'importe quel autre type de cursus à partir du moment où ils ont démontré peut-être autrement leur motivation et leur envie. Soit en faisant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout au long de leur parcours universitaire, des stages peut-être, en essayant de faire des piges, en essayant d'intégrer comme ça cet univers du journalisme, en rencontrant des professionnels, en essayant de se débrouiller par eux-mêmes et constituer leur propre parcours. C'est possible, voilà. C'est possible, ça l'a toujours été. L'entrée dans la profession n'est pas sanctionnée par un diplôme d'une école reconnue ou d'une école de journalisme en général. C'est une profession ouverte, elle doit, je pense, le rester, parce que c'est aussi ce qui garantit une certaine diversité dans les rédactions. Après, c'est vrai que forcément, dans un cursus reconnu, on va peut-être avoir plus de facilité à intégrer son projet professionnel. Oui.
Après ce master, est-il particulièrement difficile de trouver du travail derrière ?
Alors nous, on n'a pas de recul, hein, puisque le master vient d'ouvrir à Tours. Ça fait un an qu'on a ouvert le master. On a du recul, par contre, sur nos précédents cursus, DUT et licence. Globalement, on avait ce qu'on appelle des taux d'intégration très, très élevés. Taux d'intégration, c'est quoi ? C'est on regarde 30 mois après la sortie du diplôme ce qu'est devenu l'étudiante ou l'étudiant et quel a été son parcours pendant les 30 mois. Et donc, nous, on avait un taux d'intégration, c'est-à-dire des anciens étudiants ou étudiantes qui travaillaient dans le journalisme autour de 90% en licence professionnelle. Donc c'est-à-dire que 9 étudiants sur 10 de chez nous, 30 mois après leur sortie, avaient leur carte de presse et travaillaient comme journalistes, mais dans des situations très différentes. Certains étaient pigistes, d'autres étaient salariés d'une rédaction, d'autres étaient correspondants, donc travaillaient pour plusieurs rédactions, à l'étranger ou en France. Et ça ne veut pas dire que ce sont des gens qui vont être journalistes toute leur vie. Mais 30 mois après, globalement, on avait un taux d'intégration de 90%. Certains en vivaient complètement, d'autres non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour avoir la carte de presse, sans rentrer dans les détails, mais il faut apporter la preuve qu'au moins la moitié de ses revenus provient de l'exercice du journalisme. Et c'est-à-dire, on a des étudiants qui, peut-être, pour un tiers de leur revenu, travaillaient en tant que journaliste, et puis pour deux tiers de leur revenu, ne travaillaient pas en tant que journaliste, mais peut-être pour des boîtes de communication, pour des collectivités territoriales, pour toute autre chose, de l'enseignement. Enfin, ils pouvaient faire 10 000 choses différentes, ne serait-ce que pour avoir un salaire à la fin du mois, pour vivre, tout simplement. Ça veut dire qu'ils étaient journalistes, pas à temps plein, mais ils sont journalistes. Pour autant, la commission de la carte ne leur reconnaît pas l'identité professionnelle de journaliste parce que leurs revenus ne sont pas suffisamment perçus à travers des entreprises de presse. Donc on avait tous ces cas de figure là, mais globalement on se rendait compte que ceux qui sortaient de chez nous, mais c'est vrai aussi pour les autres cursus reconnus, hein, c'est pas propre à Tours, on va pas s'auto-glorifier, globalement ça permet d'intégrer le monde du journalisme sur les 2, 3, 4 années qui suivent la sortie du cursus. Et généralement, ce que constatait à 30 mois, c'est qu'on était plutôt sur des contrats longs que sur des contrats courts. Mais sur les 30 mois qui précédaient l'étude, on savait très bien que les niveaux de précarité étaient très différents d'un ancien étudiant ou d'une ancienne étudiante à l'autre.
Alors par rapport à, donc pour le marché du travail, il faut avoir fait des stages, et pour les stages, Je pense que vous avez des partenariats avec certaines rédactions. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce que vous travaillez plus avec le service public ou d'égal à égal avec le privé?
On travaille avec tout le monde. Oui, l'idée, c'est d'essayer de travailler, bien sûr, avec tout le monde. Après, plus que des partenariats, je dirais, on a quelques... Enfin, je parlerai plus d'habitude de travail, finalement, et de confiance accordée par les rédactions. Et c'est ce qui fait, par exemple, je peux citer l'exemple de la presse écrite. On sait, par exemple, chaque année que le journal La Croix, le quotidien La Croix, va accorder 4 à 5 stages à des étudiants de l'école. Et que sur cela, il va peut-être donner 1, 2 jusqu'à 3 contrats en CDD pour l'été qui suivra à ces mêmes étudiants si ça s'est bien passé pour eux. Donc voilà, ça c'est typique d'une habitude de collaboration avec un média. On a aussi des relations, je reste là sur la presse écrite, mais Nicolas complétera sûrement pour la radio notamment et la télé, mais sur des relations de travail assez suivies avec Le Monde, par exemple, notamment à travers l'hébergement d'un blog, c'est-à-dire le site du Monde héberge depuis maintenant 6 ans, je crois, un blog réalisé par des étudiants de l'école. Donc en ce moment, par exemple, le blog qui est hébergé sur le site du Monde, c'est le blog Factoscope. Voilà, Factoscope qui est par ailleurs un média créé par l'école pour faire du fact-checking politique, de la vérification des propos tenus par les personnalités politiques dans l'espace public. Et donc voilà, les résultats de ce travail-là, puisqu'ils conviennent à la rédaction du Monde et qu'ils vont dans le sens de ce que font par exemple la cellule des décodeurs au sein de la rédaction du Monde, eh bien on a cette possibilité de faire héberger un blog par Le Monde et avoir des reprises sur le site internet du Monde. Voilà, mais ça existe aussi pour d'autres types de médias, notamment audiovisuels.
Oui, par exemple, on a une convention avec France Télévisions qui nous permet chaque année de bénéficier de 2 à 3 places en alternance en deuxième année de master pour des étudiants de chez nous dans une des rédactions de France 3, par exemple. Mais c'est vrai que Laurent a raison de dire, c'est plus des habitudes de travail que des conventions très strictes avec tel ou tel média. On travaille avec toutes les radios nationales, on travaille aussi avec des radios régionales et locales, on travaille avec le service public, mais aussi des chaînes de télévision privées. On travaille très bien avec le groupe TF1-NCI, on travaille avec le groupe Canal+, on travaille avec le groupe BFM Next TV, on travaille avec évidemment France Télévisions, avec Radio France. Enfin, on a, je dirais que, à la fois en termes de stage, en termes de contrat, en termes de pige aussi, je dirais un spectre assez large de médias avec lesquels on travaille. On travaille avec eux parce qu'ils connaissent notre formation et ils savent que nos étudiants répondront, je dirais, aux exigences qui sont les leurs en termes éditorial et puis en termes techniques aussi. Et puis on travaille avec eux parce que eux savent très bien que dans un processus d'apprentissage du journalisme, il faut passer par la case entreprise, hein. Et que c'est aussi, je dirais, un point de la convention collective des journalistes que d'aider à la formation des futurs journalistes. Et puis, il y a une troisième façon de travailler avec eux, c'est de le faire venir chez nous. C'est-à-dire que nos étudiants vont chez eux, mais eux aussi viennent chez nous. On a la chance d'avoir nos propres studios télé, nos propres studios radio, nos propres rédactions print et multimédia. Et globalement, chaque année, on travaille avec une cinquantaine ou une soixantaine de journalistes différents pour l'encadrement de sessions professionnelles, tout type de support. Parfois, c'est l'encadrement sur une journée, parfois sur 2 journées, parfois sur 1 semaine, parfois sur des projets plus longs. Ça peut aller jusqu'à 5 semaines. Quelquefois, on a des projets de 5 semaines avec des journalistes. Donc voilà, ça va aussi dans les deux sens. C'est-à-dire que nos étudiants vont dans les rédactions, mais les rédactions viennent aussi à l'École publique de journalisme de Tours.
Alors, cette émission touche déjà à sa fin. Tant mieux, parce qu'il fait très chaud. Tant pis, parce qu'on avait sûrement plein d'autres questions à vous poser. Alors, une dernière question à nos deux invités. Quelle est la différence entre journalisme et documentaire?
Ah, question piège.
Bien sûr.
On a l'habitude de dire que dans un documentaire, il y a une intention d'auteur qu'il n'y a pas forcément dans le cadre journalistique pur, en tout cas pur dans le sens traitement de l'actualité, même si maintenant on voit des nouveaux formats qui travaillent un peu sur les deux, que ce soit les podcasts, que ce soit certains, on peut appeler ça des documentaires, hein, certains documentaires télé, mais il y a peut-être une implication différente, pas tellement dans l'enquête, mais dans l'écriture, dans le documentaire, qu'on ne retrouve pas dans un exercice journalistique qui, par définition, est un exercice dit de recul vis-à-vis de l'information. Dans le documentaire, on va peut-être être plus immersif. On va faire du journalisme un peu d'immersion, du journalisme un peu participatif peut-être parfois dans le documentaire qu'on ne fera pas dans le traitement de l'actualité.
Oui, sans compter qu'il y a plusieurs écoles en termes de documentaire et que l'appellation documentaire, hein, c'est un peu comme le camembert, ça désigne pas toujours tout à fait la même chose. Et c'est vrai qu'il y a certaines écoles en matière de documentaire qui rejettent totalement l'appellation journalisme. Et à qui vous pouvez expliquer que vous voulez faire un documentaire journalistique et puis qui vont vous mettre dehors, en fait, vous exclure de la formation qu'ils proposent. Et puis d'autres qui vont au contraire essayer de se nourrir de ce que peut apporter le journalisme en matière documentaire. Donc je dirais que ça peut sembler peut-être le distinguo un peu flou parfois. Et c'est essentiellement dû à la manière dont on conçoit au départ le documentaire, qui a ses propres courants de pensée et de fabrication.
Après, moi, ce qui m'importe, c'est est-ce que j'ai appris quelque chose ? Que ce soit un documentaire, que ce soit un traitement d'actualité, la question au final que je me pose, c'est à la fin, qu'est-ce que j'ai appris ? Pourquoi j'ai pris plaisir à écouter, à regarder ou à lire ? Je pense que c'est ça le plus important, quoi.
Voilà, alors merci à nos invités Laurent Bicot et Nicolas Souris. Et si je pose cette question, c'est parce que nous allons poursuivre cette émission par l'écoute de deux documentaires justement réalisés par des étudiants du CréaDoc d'Angoulême. Donc je remercie également évidemment nos chroniqueurs, Clara, Juliette, Raphaël et à la technique Rudy. Merci à tous et bien sûr restez à l'écoute de nos excellents programmes. Bonne soirée.